BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Dessine-moi un destin. Chaque jour, les marchés construisent un destin. Aux entreprises cotées et à leurs actionnaires, on vit tout cela de l'intérieur chaque après-midi. BFM Bourse, 15h30, 18h. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. D'autant que le destin des entreprises cotées aujourd'hui est positif. Un vent favorable qui souffle sur les marchés. On verra si ça dure. En tout cas, Aude Kersulek nous accompagne depuis la Tour Euronext. Aude, de bonnes nouvelles cet après-midi. Les indices européens sont tous bien orientés.
Ils sont tous bien orientés en Europe comme à Wall Street. On a ouvert il y a un petit peu plus d'une demi-heure. Le CAC qui prend 0,6% et on a même quelques records. Alors il faut les chercher du côté de Londres pour l'indice qui a franchi ce matin les 8067 points. Et puis un record aussi au sein du CAC 40, c'est la barre Publicis qui est à son plus haut historique, 104,90 €. Elle est en tête de l'indice et elle monte de 3%.
Effectivement, on a quelques records à nouveau aujourd'hui sur les marchés alors que les entreprises reprennent le pouvoir, les publications qui accélèrent. Novartis, on en parlera dans un instant, d'une belle hausse de plus de 2%. SAP aussi en progression de quasiment 5% grâce à sa division cloud. Et ce soir, après la clôture, qui publiera ? Kering, le chat noir du secteur du luxe en bourse. Kering annoncera ses résultats après 17h35. On essaiera de vivre tout ça en direct au cœur de BFM Bourse. Et les 7 magnifiques aussi qui vont commencer à publier ce soir, Tesla. Sauf que le ressort des 7 magnifiques semble un poil cassé quand même. Voilà, c'est vrai qu'on a des performances boursières un peu plus mitigées depuis quelques semaines maintenant sur le segment de la tech et notamment des 7 magnifiques. UBS qui conseille même de se délester de 6 des 7 magnifiques. Et puis Apple dont les ventes de smartphones en Chine diminuent de quasiment 20% au premier trimestre. Grosse perte de part de marché pour Apple face notamment aux concurrents chinois. Important, on va en parler aussi cet après-midi. Alors que ouais, il y a vraiment une thématique d'incertitude là qui s'inscrit au cœur de la tech américaine, qui imprime de plus en plus. Quel potentiel désormais pour les 7 magnifiques? On pose la question à nos experts. En tout cas, ici en Europe, pour le coup, on a une éclaircie. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Les PMI qui s'améliorent, qui accélèrent à la hausse et qui s'installent, s'ancrent de plus en plus au-delà de la part des 50. Vous savez, les PMI composites, ça signifie que l'économie européenne semble vouloir revenir en zone d'expansion et donc la croissance sera sans doute amenée à peut-être réaccélérer un peu plus. Franchement, les PMI du jour sont encourageants. On en parlera avec Michard, ce sera à partir de 16h15. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et si vous avez raté la précédente demi-heure de BFM Bourse, on évoquait les scénarios pour le marché américain. Pour le coup, ils sont pas très favorables, les scénarios. En tout cas, le grand stratège de JP Morgan se montre pessimiste sur le potentiel de Wall Street. Il estime que la correction des deux dernières semaines, cette correction sera amenée à se poursuivre malgré l'embellie de ces deux dernières séances. Ouais, la correction n'est pas terminée, c'est ce qu'il expliquait. On en parlait avec John Plassard. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. Vous pouvez le consulter bfmbourse.com et notre application BFM Business. Peut-être la correction va-t-elle se poursuivre. En attendant, Aude, on est plutôt sur une embellie là. Enfin, franchement, à Wall Street hier, on a terminé en hausse et on transforme l'essai aujourd'hui. Les trois indices américains sont dans le vert et on n'est pas en reste ici en Europe. Les indices européens aussi sont bien orientés.
Oui, on monte de 0,5% à Paris. Plus des trois quarts des valeurs du CAC 40 qui sont en hausse. On va en parler. Alors, c'est vrai qu'on rentre là dans le dur des publications vraiment de la semaine. On a déjà des publications macroéconomiques ce matin parce qu'on a eu les PMI, les indicateurs des directeurs d'achat. Le PMI composite, si on regarde celui de la zone euro, il est ressorti plus haut que prévu, 51,4 en avril, après 50,3 points au mois de mars. Et c'est quand même plus 0,6 par rapport au consensus. Et c'est les services qui repartent à la hausse, l'industrie et elle encore un peu à la traîne. Voilà sur quoi on rebondit ce matin. Et puis c'est vrai, on a eu aussi quelques publications d'entreprises. Alors Renault, vous allez en parler plus en détail, c'est vrai qu'elle est arbitrée à la baisse cette publication de chiffre d'affaires, notamment parce que l'activité automobile est en repli. Pour le premier trimestre, on perd 1% sur la valeur à 47 euros. Et puis la plus forte blesse pour le moment, c'est ArcelorMittal, on perd 2,3%. Alors, une actualité d'entreprise, c'est qu'ArcelorMittal a annoncé qu'ils allaient construire une usine de fabrication d'acier électrique. Et pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air de ne pas forcément plaire aux investisseurs. En revanche, en tête du CAC, je vous en parlais, Publicis qui vient de franchir un nouveau plus haut historique qui prend 3%. On a également Legrand qui prend 1,6%, qui a annoncé deux acquisitions ce matin, Innovation aux Pays-Bas et Netrac en Inde. Dans les domaines domaine de l'assistance à l'autonomie et à la santé dans les data centers. Et puis, on a Kering qui est en hausse en attendant à sa publication. Ce soir, on prend 1,6%.
Philippe Ferreira est avec nous depuis le bureau de Kepler Chevreux. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver. Aude le disait, parmi les valeurs à suivre à Paris, il y a quand même Renault. La publication est pas mal, mais quand même, la guerre des prix dans l'automobile pèse sur les revenus du métier automobile, justement, de Renault. Le titre est en repli, là, de quasiment 1%, deuxième plus forte baisse du CAC 40. Est-ce que le marché se montre sévère? Est-ce que c'est une petite respiration provisoire après l'incroyable début d'année à la hausse pour Renault? Ou est-ce que, ouais, la publication a quand même de quoi interroger et peut-être un peu inquiéter?
Mais non, en effet, alors le titre est un petit peu en difficulté après un beau rebond depuis le début d'année, mais le marché est plutôt réaliste en fait. Les revenus sont un peu au-dessus des attentes du consensus, mais particulièrement liés à la composante services financiers. Alors c'est pas là où on attend Renault sur l'automobile. Et la composante, la division automobile, hein, les revenus, eh bien sont très légèrement au-dessus du consensus, mais en particulier il y a un déclin des volumes de 4,5% parce que Renault a déstocké au cours du T1. Alors, tout ça n'est pas dramatique, mais n'est pas vraiment un catalyseur pour un rebond du titre. De notre point de vue, nous sommes plutôt neutres sur la valeur et, en l'occurrence, voilà, le marché est plutôt réaliste parce que la surprise positive n'est pas liée à l'automobile, mais au service financier. Et ça, c'est lié au taux, c'est tout.
Effectivement, donc de la prudence chez vos équipes de Kepler autour de Renault qui, sur un an, on voit la courbe, hein, ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business et de la télé, on voit la courbe, plus 41% sur un an ce titre Renault, c'est impressionnant. Bon, aujourd'hui on a cette petite baisse de 0,9%. Dans le secteur automobile toujours, on a cette autre publication, General Motors aux États-Unis, qui bat les attentes et qui relève ses prévisions. GM en direct à New York, là, il est 19h09 à New York, GM gagne 3%. En ce moment, et on en reparlera dans la suite de BFM Bourse, bien sûr, les belles performances de GM, alors que Tesla annoncera de son côté ses résultats ce soir. Une autre valeur à surveiller, Philippe, aujourd'hui. Alors, dans les semi-conducteurs, pour le coup, un secteur qui souffre beaucoup depuis quelques jours, eh bien, on a un relèvement d'opinion, c'est Berenberg, un de vos concurrents, Philippe, Berenberg, qui relève, ouais, sa recommandation sur ce titre STM. Est-ce que vous partagez l'idée que, oui, STM, et surtout après la petite déconfiture récente du segment des semi-conducteurs, retrouve du potentiel?
Alors, nous sommes positifs sur STM, hein. Non, pas revu à la hausse, mais nous étions déjà positifs. En l'occurrence, bon, STM, c'est quand même un petit peu, on est à l'achat, mais c'est quand même assez compliqué quand même, parce que les volumes de vente sont en baisse de 15%, la demande liée à l'industrie est en forte baisse, de moins 30 à moins 40%, les marges aussi sont en baisse, donc, STM, c'est en effet une valeur sur le moyen terme où l'on est positif lié à ces méga tendances d'électrification et de digitalisation. Mais à court terme, eh bien, les sources de demande pour ces produits, que ce soit l'industrie, l'auto ou autre, sont quand même en baisse. Et on ne s'attend pas vraiment à de surprises là-dessus à court, moyen terme. Donc on est, je dirais, un petit peu prudent à court terme, mais positif moyen long terme, donc on serait acheteur sur repli sur cette valeur-là.
Ce titre STM qui, alors lui, pour le coup, souffre depuis un an, moins 13% toujours. Eh oui, on est en sous-performance sur STM par rapport au reste du marché, même si c'est les semi-conducteurs, moins 13 sur un an. Aujourd'hui, le titre gagne 1,4%. Philippe, merci beaucoup. Philippe Ferreira, depuis les bureaux de Kepler Chevreux, bon après-midi. Aude nous rappelle la Tour Euronext en direct, une autre valeur qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, qui surperforme, qui surnage. C'est dans la santé, le titre Novartis, Aude.
Oui, Novartis, hein, plus 2,2% pour le moment à la bourse de Zurich, même si les gains se sont considérablement atténués, parce qu'on prenait 5% un peu avant midi. Donc pour ce géant suisse de la pharmacie qui a publié les résultats de son premier trimestre, et les estimations sont battues, hein, tant en termes de chiffre d'affaires que de profit. Le bénéfice net a augmenté de 14% à 3,7 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires est en hausse de 10% en comparable à 11,8 milliards de dollars. Et c'est aussi les objectifs de l'année que Novartis a relevé, avec une croissance des ventes non plus de 5% mais de 10%, donc c'est quand même pas un petit mouvement. Et puis il y a aussi du mouvement à la tête de Novartis, hein, puisque l'ancien, le PDG actuel va partir, et le nouveau président qui a été proposé, c'est un concurrent Bristol Myers Squibb, qui s'appelle Giovanni Caforio, et qui va donc prendre la tête du conseil d'administration de Novartis. Novartis. Et puis à noter aussi SAP. Là, on est à Francfort. C'est la plus forte hausse. C'est aussi une publication trimestrielle qui est largement saluée, puisque là, les objectifs sont confirmés. Mais surtout, le free cash flow. Les investisseurs aiment vraiment regarder cet indicateur encore plus que la marge opérationnelle. Le free cash flow est ressorti plus élevé qu'attendu. Donc SAP dans les logiciels.
Effectivement, grâce à l'activité cloud et sa porte, sa hisse, toute la bourse de Francfort, puisque SAP est la première capitalisation de la bourse allemande. Aude Kersulek nous accompagne, la tour Euronext, tout au long de l'après-midi. Une idée de valeur en plus, valeur ajoutée, c'est chaque jour. Maude Servagna, depuis Inextenso, est avec nous. Bonjour Aude. Bah, merci de nous rejoindre, nous accompagner. Vous êtes en direct, Maude, sur BFM Business.
Oui, bonjour.
Effectivement, bonjour. On est à quelques mois à peine, trois petits mois désormais des Jeux Olympiques de Paris. Bah, vous avez repéré une valeur qui pourrait profiter particulièrement des JO. Et c'est une small cap, en l'occurrence, le titre Hopscotch.
Effectivement. Alors, Hopscotch, c'est un expert de l'ensemble des métiers complémentaires de la communication. Donc, le digital, les relations publiques, l'événementiel, avec un réseau international. Et le groupe a récemment publié des résultats 2023 à des plus hauts niveaux historiques. Et en cette année de Jeux Olympiques à Paris, Hopscotch se positionne comme l'un des grands gagnants des appels d'offres en matière de communication. Mais il profitera également de d'autres événements d'envergure, comme le Mondial de l'Auto, dont les ventes d'espace aux professionnels de l'auto se déroulent très bien. Autre moteur de performance pour le titre, selon nous, le rachat en cours des minoritaires de Sopexa, une filiale du groupe, avec un impact relutif sur le résultat net. Sur le plan stratégique, le groupe aura accès à la trésorerie de Sopexa et pourra travailler à la mise en place de synergies supplémentaires.
Hopscotch, donc une opinion favorable, vous êtes optimiste, beaucoup d'arguments positifs. Quels sont les points faibles ou les risques néanmoins sur cette valeur Hopscotch ?
Alors, sur son type de secteur, on pourrait citer les rapports de force avec les clients qui limitent la capacité à valoriser les équipes et le conseil. Cependant, le groupe a un positionnement unique et pertinent en intervenant sur tous les métiers de la communication. Il est innovant, il enrichit son offre sur tous les secteurs et développe des verticales métiers comme par exemple dans le tourisme ou le sport. Et j'aimerais également évoquer la solide structure financière du groupe avec une forte génération de cash qui lui permet de rester sur le chemin des acquisitions relutives avec des cibles situées à l'international. Donc en synthèse, de notre point de vue, la dynamique de résultats sera très bonne cette année, donc notamment grâce aux JO, et le titre se traite toujours sur des niveaux de valorisation attractifs. Ainsi, nous avons une recommandation à l'achat fort et un objectif de cours de 30,80 €, soit un potentiel de hausse de plus de 40%.
Effectivement, Hopscotch, donc opinion favorable, une idée de diversification, hein, on le répète à chaque fois, pour diversifier les portefeuilles, ne jamais tout investir sur une seule thématique et encore moins sur une seule valeur. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés cet après-midi avec vos équipes chez Inextenso, Maude Servagna. Le CAC 40 reste en hausse de 0,5%. Et ce soir, deux publications très attendues, celle de Kering et celle de Tesla, deux fleurs fanées du marché. Bien, après bourse, Kering annoncera ses résultats et après la clôture de Wall Street, ce sera au tour de Tesla. D'après vous, laquelle de ces deux fleurs fanées, Kering et Tesla, est amenée à continuer de décevoir ? Va continuer de décevoir durablement les investisseurs. Laquelle ? Est-ce que ce sera plutôt Tesla ou est-ce que ce sera plutôt Kering ? Cette question, on vous la pose sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. N'hésitez pas à vous y abonner, à répondre, à nous laisser vos arguments aussi en commentaire. On rebondira dessus dans la prochaine demi-heure de BFM Bourse avec la famille, toute la famille qui sera réunie de 16h30 à 17h. Plus que quelques minutes de patience avant qu'on aborde cette question de ces deux fleurs fanées. Laquelle, Kering ou Tesla, continuera de décevoir les investisseurs ? Rendez-vous donc à partir de 16h30.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Auparavant, on en a une qui se redresse là de fleurs fanées. Je parle pas de vous, Samy. Hein. Samy Char est avec nous depuis Lombard-Odier-IM. Non. Je parle de l'Europe pour le coup. Cette fleur fanée européenne. Bonjour, Samy. Avec ses PMI qui étaient en zone de contraction depuis des mois, des trimestres, et qui là, les PMI, repassent la barre des 50 et s'installent même de plus en plus en zone d'expansion. Le PMI composite de la zone euro a été publié tout à l'heure, Samy, et c'est la bonne nouvelle macroéconomique du jour. Non seulement le PMI composite accélère, mais il accélère plus encore que prévu.
Oui, Guillaume, et vous avez bien raison de le mentionner. Ça fait un peu une fleur fanée qui recommence à s'épanouir. L'Europe a beaucoup déçu ces derniers temps, mais on le sentait venir. On en a discuté souvent ensemble. L'inflation, maintenant, est retombée sous la croissance salariale en Europe. On a donc, petit à petit, des gains de pouvoir d'achat qui sont en train de se reconstruire. Ça veut dire que le consommateur européen va mieux. Le consommateur européen, il consomme essentiellement des services. Et donc, on a ces indices de directeur d'achat côté services qui vraiment rebondissent fortement, pendant qu'au niveau manufacturier, ça se stabilise. Vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, petit à petit, on va avoir des révisions positives sur le consensus du PIB européen. Et donc, c'est plutôt une bonne chose, d'autant que les autres sous-composantes de ce rapport sont bons aussi. Il n'y a pas vraiment de pression inflationniste. Et on avait aussi, avec le rapport du jour, les délais de livraison. Vous savez qu'on aime bien regarder ça dans ce contexte géopolitique. Les délais de livraison sont bons. Ils ne se détériorent pas. Ça veut dire que la géopolitique n'est pas en train d'avoir un impact massif sur l'Europe. Donc, une fleur fanée qui recommence à s'épanouir.
Vous dites, le manufacturier, c'est vrai que sur les services, on a une vraie accélération. C'est une très, très bonne nouvelle. Le manufacturier, nous dites-vous, se stabilise. Non, il repart à la baisse. Enfin, il se retasse, le manufacturier. Il était en train de réaccélérer la hausse. Il y avait un signe de retour de vigueur sur l'industrie européenne. Et là, ça repart quand même à la baisse. C'est peut-être le point noir de cet indicateur publié tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. Le sentiment, quand même, c'est que au niveau manufacturier, on est en train d'avoir cette tendance de fond à la stabilisation. Mmh. Vous avez raison, le chiffre du jour est un tout petit peu plus bas. Mais enfin, il reste quand même plus haut que le point bas qu'on a pu connaître en 2023. Donc, je pense qu'on est sur une tendance quand même d'amélioration. Voilà, ça vit un peu, il y a des hauts, il y a des bas, mais enfin, globalement, on le voit, si le consommateur est là, si la croissance européenne s'améliore, si, encore une fois, les indicateurs, quand on pense aux sous-composantes, vont dans la bonne direction, c'est que quand même, l'économie européenne va se stabiliser et devrait être certainement de bien meilleures factures cette année que l'année dernière.
Mais du coup, il y a moins d'urgence, il y aura moins d'urgence pour la BCE à baisser les taux, on l'imagine, si la croissance revient, si elle réaccélère, comme semble l'indiquer les PMI de ce matin, la BCE a moins de... rien ne presse pour baisser les taux, finalement, puisque la croissance va d'ores et déjà et d'elle-même repartir. Il n'y a pas besoin de baisser les taux urgemment pour que ça reparte. Ça va se faire tout seul, manifestement, Samy.
Alors, on fait un peu quand même le raccourci. Dès qu'il y a que la croissance, il y aura forcément de l'inflation. Enfin, la croissance européenne, elle était en stagnation l'année dernière. On va retrouver un peu de croissance cette année. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'on est dans une croissance qui surchauffe le moteur économique européen. On reste quand même dans une croissance qui est très modérée, certes. Tout indique que ce sera mieux cette année que l'année dernière. Mais enfin, il me semble qu'on est surtout dans une croissance non inflationniste aujourd'hui. Ça reste quand même pas très, très vigoureux. Ça redémarre un peu. Donc, c'est un tout petit peu vite dit de penser que cette croissance-là va ramener de l'inflation et contraindre la BCE dans sa politique de baisse de taux. Bien au contraire, l'inflation reste faible. La composante prix de cet indicateur montre que finalement, en Europe, il n'y a pas de pression. Les entreprises ne nous disent pas qu'il y a une pression sur les prix. Donc, on a une croissance non inflationniste en place, une croissance pas trop vigoureuse non plus. Donc, a priori, la Banque Centrale Européenne ne sera absolument pas contrariée dans ses plans de baisser les taux en juin.
Justement, l'inflation, on est dans un contexte toujours de tension géopolitique. Est-ce que le prix, le coût du fret maritime, compte tenu en plus de ces tensions au Proche et Moyen-Orient qui se sont accrues en fin de semaine dernière, le prix du fret maritime a tendance à continuer progresser ou les choses se calment d'ores et déjà? Je vous pose la question parce que c'est une composante importante aussi des perspectives d'inflation.
Ah oui, alors il y a un indicateur qu'on aime beaucoup qui s'appelle le WCI qui mesure le prix d'un conteneur, de transporter un conteneur de 40 pieds un peu partout dans le monde. Le prix, généralement, c'est autour de 2 000 $. Ça coûte 2 000 $ de transporter un conteneur de 40 pieds du port de Shanghai au port de Rotterdam ou au port de Los Angeles, par exemple. Ce prix était monté à 16 000 $ au moment où la Chine devait fermer ses ports. Aujourd'hui, malgré les attaques houthies en mer Rouge, malgré la fermeture du canal de Suez, malgré même la fermeture du canal de Panama, ce prix est en train de revenir vers les 2 000 $. Donc, Guillaume, ça se tasse. Le coût du fret n'est absolument pas inflationniste à ce stade, de même que les prix du pétrole ne sont pas inflationnistes à ce stade. Donc, encore une fois, on a un peu de croissance. Cette croissance ne semble pas inflationniste. L'impact de la géopolitique, pour l'instant, n'est pas marquant sur l'inflation et sur la croissance. Et donc, c'est plutôt un environnement qui nous paraît modérément sain.
Oui, effectivement. Et de quoi ne pas contrarier, nous disiez-vous, la Banque Centrale Européenne dans ses plans, et notamment une première baisse de taux peut-être au mois de juin. Merci beaucoup, Samy, de nous avoir accompagnés. Samy Char, depuis Lombard-Odier IM, on vous souhaite une bonne après-midi. À très bientôt. Le CAC 40 toujours en hausse de 0,6% en ce moment, et Wall Street en progression, plus 0,5% sur le S&P 500.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
On va parler encore plus d'avenir là. On va parler des batteries électriques et de recyclage des batteries électriques. Des idées pour investir dans ce recyclage des batteries avec Carmine de Franco. Il nous rejoint, directeur de la recherche d'Ociam. Bienvenue Carmine.
Bonjour Guillaume.
On est en train d'enclencher une électrification du monde. C'est vrai, à marche forcée. Alors, tant mieux pour les émissions de CO2. Sauf que cette électrification est
elle-même gourmande, très gourmande en ressources.
C'est inévitable. On parle ici d'un grand processus de transformation de l'économie. Donc ça veut dire que plus on fait des investissements dans les énergies renouvelables, dans les batteries électriques, il va falloir plus de matériaux. Et donc notamment la croissance et la demande sur les batteries électriques pousse la demande sur le lithium, le cobalt, le nickel. D'ailleurs, les scénarios qui sont en ligne avec les accords de Paris sont très clairs. Si on veut réussir à rester dans un monde à 1,5 degré, il va falloir électrifier 90% du transport, donc le parc automobile en gros. Donc quelque part, les deux sont liés. Plus on avance vers l'électrification de l'économie, plus on va avoir besoin de ces matériaux. Attention, Mère Nature n'a pas été très gentille dans la mesure où ces matériaux ne se retrouvent pas partout dans la planète. Ils sont concentrés dans certains pays et notamment dans la production et dans la transformation, la chaîne de valeur est capturée par un nombre très limité de pays, dont la Chine. Donc quelque part, ça bloque un petit peu le développement massif de cette économie-là.
Et puis, il y a peut-être un point aussi qui contribue à bloquer les perspectives. Bien sûr, elles sont là, mais peut-être un peu moins fortes que ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois, à savoir que les ventes de véhicules électriques ralentissent. Les véhicules électriques pourraient même devenir moins rentables que les véhicules thermiques, voire leur prix devenir plus bas, passer sous le prix des véhicules thermiques un jour. On voit Tesla, par exemple, qui nous a annoncé encore ce week-end de nouvelles baisses de prix ici en France. Est-ce que ça limite pas le potentiel de l'électrification du marché électrique,
automobile ? Vous le disiez tout à l'heure, on attendra les résultats de Tesla, mais moi je suis persuadé qu'on est ici face à une tendance de fond. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 25 millions de voitures électriques et 1,5 milliard de voitures thermiques. Donc, si on veut réussir à rester dans un monde qui maîtrise son climat, le trend est très clair. Et ce qui est plus important, c'est que pour que le système soit durable, nous ne pouvons pas juste fabriquer des batteries et ensuite les jeter. Il va falloir les recycler, puisque déjà c'est très compliqué d'accéder à ces matériaux. Et donc du coup, par exemple, on estime qu'en dans les 10 prochaines années, il y aura 5 millions de batteries à trier. Donc ça, c'est un marché qui a une forte croissance. Il est estimé à être 5 milliards de dollars d'ici à 2040. Donc c'est un marché qui est poussé par la dynamique de l'électrification de l'économie. Finalement, pour les producteurs et les transformateurs, et donc du coup les recycleurs de ces matériaux, que la batterie soit de Tesla, de Renault ou d'une autre entreprise, c'est pas très grave. C'est un marché qui a une forte croissance structurelle et durable.
Recycler les batteries, parvenir à devenir autonome dans le recyclage des batteries, c'est presque aussi un enjeu de souveraineté pour moins dépendre des minéraux de la Chine, par exemple.
Et aussi, quelque part, ça permet d'être souverain, de maîtriser sa propre chaîne de valeur, parce qu'aujourd'hui, typiquement, plus on va avoir besoin de ces matériaux, plus il va falloir faire appel à des mines dans certains pays qui sont souvent peut-être en guerre ou dans lesquels les droits humains ou les droits du travail ne sont pas respectés. Donc du coup, quelque part, ça risque de freiner un petit peu l'adoption massive de ces batteries pour les voitures électriques.
La réglementation, elle continue de se durcir ou là on est sur un palier en termes d'électrification justement du marché de l'automobile et pas que, il n'y a pas que l'automobile qui s'électrifie de plus en plus.
Disons que c'est un facteur qui pousse notamment ce marché, puisque que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a deux leviers fondamentaux, donc il y a les subventions pour la recherche, donc ces deux gros continents essayent justement dans une idée de souveraineté de maîtriser la chaîne de valeur, donc du coup ils subventionnent des projets de recherche pour essayer de mieux recycler, de capturer 100% de la valeur des batteries, et après ensuite il y a les crédits d'impôt, donc l'IRA aux États-Unis typiquement une voiture électrique qui utilise des matériaux recyclés a droit à des crédits d'impôt qu'il n'aurait pas autrement. Et d'ailleurs, j'ajouterais aussi que pour les constructeurs automobiles, ça devient une vraie volonté pour faire baisser l'empreinte carbone de leur voiture. Je vous donne juste un chiffre. C'est 4 fois moins intensif en énergie et en eau d'utiliser des matériaux recyclés. Donc, toutes choses égales par ailleurs, ça vous fait baisser de 30% l'empreinte carbone de votre véhicule. Et ça, c'est très simple. Pour un constructeur automobile, c'est juste changer de fournisseur entre celui qui a des matériaux recyclés et celui qui n'en a pas. Donc c'est vraiment porteur de ce point de vue sur ce marché à très long terme.
Alors vous savez que BFM Bourse est une émission d'investissement pour les investisseurs. Voilà, on parle de ce marché effectivement des véhicules électriques, les batteries électriques et l'enjeu autour du recyclage. Je suis investisseur. D'abord, est-ce que cette thématique sera forcément porteuse de grandes performances boursières ou tout est déjà dans les cours? Et si oui, quelle valeur? Vous-même, chez Ossiam, quelle valeur privilégiez-vous pour aller plus loin dans cette thématique dans vos portefeuilles?
Donc, il va falloir chercher très finement parce qu'on n'en trouve pas beaucoup des entreprises qui sont spécialisées dans ce secteur. Moi, aujourd'hui, je pourrais vous proposer une entreprise finlandaise, Metso, M-E-T-S-O. Donc, c'est une entreprise qui est leader dans le recyclage des batteries. En général, c'est vraiment dans la chaîne de valeur des minières et des entreprises qui font de l'extraction des métaux et des minéraux. Et donc, il leur fournit les solutions clés en main. demain. Donc c'est un peu le ASML des semi-conducteurs, mais dans le cas du recyclage de batteries. Donc c'est une entreprise qui dédie 100% de ses efforts en R&D dans la durabilité. Ils détiennent quasiment 8000 brevets. Ils sont déjà leaders dans le recyclage du lithium, du cobalt, du nickel. Et donc c'est une entreprise qui finalement a bien fonctionné sur un trend qui est très fort et qui est pas cher. Si on regarde la valorisation de l'entreprise par rapport à son secteur industriel européen, elle s'achète à peu près un multiple de 16. Donc alors que la performance boursière est significativement meilleure.
Une marge de 17%, c'est ça pour cette voile?
Tout à fait. Tout à fait.
D'accord. Ce titre donc finlandais Metso, M-E-T-S-O.
Exactement.
Merci beaucoup Carmine Desfranco pour Ossiam qui nous accompagne régulièrement. Le CAC 40 est en hausse de 0,6% en ce moment et dans un instant, c'est la famille BFM Bourse qui sonne à la porte. Ils sont déjà là, prêts, les équipes web, pour nous rejoindre jusqu'à 17h. C'est Julien Marion, tiens, qui sonne à la porte. Allez-y, entrez, Julien, venez. N'hésitez pas à nous rejoindre, la famille qui va vous accompagner, vous tous, à la radio, à la télé. Pendant la prochaine demi-heure, on évoquera le potentiel de Tesla avant sa publication ce soir. On évoquera aussi Kering, qui publiera ce soir après la clôture. Un gros menu. On parlera également de la dématérialisation, comment l'accompagner dans vos portefeuilles boursiers, juste après la pause. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et c'est toute la famille BFM Bourse qui est réunie, les équipes radio-télé, mais aussi les équipes web de 16h30 à 17h. Julien Marion, bonjour Julien.
Bonjour Guillaume, encore une fois.
Pourquoi encore? Oui, c'est vrai qu'on s'est vu.
Non, c'est juste qu'on s'est... ça fait deux fois de suite, ça arrive.
C'est vrai, c'est vrai. D'habitude, voilà, vous êtes très nombreux dans la rédaction web de BFM Bourse, vous alternez, bah, pas trop cette semaine. Hein. Hier c'était vous, c'est encore vous aujourd'hui. Vous êtes gourmand, Julien.
Oui.
Mais vous avez bien raison.
Mais je suis heureux de vous voir.
Mais pareil, plaisir partagé. Et vous avez d'autant plus raison que le marché vous salue. Le marché est une nouvelle, on est en forme. Une nouvelle fois en hausse aujourd'hui. Le CAC 40 gagne 0,5% de plus.
Oui, d'habitude, c'est Sabrina qui porte le marché. Quand c'est moi, il aime pas trop, généralement. Enfin, peu importe. Non, mais, on décortique les résultats d'entreprises qui sont pas si mal que ça. J'ai vu d'ailleurs General Motors à Wall Street qui réagit très bien. Une bonne publication. Ouais. Ils relèvent leurs objectifs. Donc, ça crée un effet d'entraînement limité sur Stellantis. Mais qu'importe, on est dans un bon momentum. Une bonne
dynamique. General Motors gagne 3%, là, effectivement.
On est dans une bonne dynamique. Et puis, mine de rien, les PMI en zone euro, c'était pas mauvais. Et en plus, ils sont, comment dire, vous savez, good news is bad news, mais là on est sur good news is not too good. C'est-à-dire qu'en gros, ça va, c'est mieux, mais c'est pas suffisant pour que la BCE ne baisse pas ses taux en juin, c'est ce que nous dit Capital Economics. Donc, good but not too good, parfait.
C'est exactement ça. Et c'est ce que nous disait aussi Sami Char tout à l'heure, on parlait de cet indice PMI européen, la zone euro. Il a été publié ce matin, et il nous disait, c'est parfait. On a une croissance amenée à réaccélérer en Europe, mais pas trop vite. Et la composante inflation ne réaccélère pas. Pour la BCE, c'est nickel. Elle pourra sans doute baisser confortablement ses taux dès le mois de juin.
Aux oignons.
Ah, c'est beau, c'est bon. On a un titre SAP aussi en hausse. Première capitalisation de la bourse allemande. SAP progresse après ses résultats de plus de 4%. On en parlera également tout à l'heure. Et puis Novartis aussi a publié. Le titre Novartis gagne 2,5%. Jean-Louis Cussac est avec nous depuis son cockpit de Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis. On est ravis de vous retrouver. D'autant que le CAC 40 est donc bien orienté. On s'ancre à nouveau largement au-dessus des 8000 points. 8093, presque à 8100. Quels sont les prochains seuils techniques, Jean-Louis?
Les derniers plus hauts, pourquoi pas? Après, on se demande toujours quel va être le moteur. Il y a quand même cette pression des menaces hein, géopolitiques. Le risque couve, hein, il n'est pas totalement écarté par les investisseurs. On a une volatilité implicite qui tourne à 12,9. Donc, vous voyez, on n'est pas revenu non plus à 11. Mais on reprend espoir dès qu'on voit en effet une statistique comme PMI US qui a donc affaibli le dollar, l'euro dollar a rebondi, l'indice américain a rebondi, même si le calendrier de baisse des taux aux États-Unis, il y a quand même n'est pas modifié dans les perspectives. Les doutes subsistent énormément hein, sur la capacité pour la Fed à baisser rapidement ses taux et puis de combien et combien de fois. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations. Mais les marchés, voilà, continuent de voir le verre à moitié plein. Le repli qu'on a eu, pour moi, était une occasion d'acheter. Donc, tant qu'on est au-dessus, si vous voulez, de 7815 futurs mai. Alors attention, on est dans la période des dividendes. Donc il faut faire attention par rapport au mois d'avril. Il y a 75 points d'écart de différence. Ça s'est réduit maintenant à 45. Parce que aujourd'hui, par exemple, vous avez eu LVMH, Vinci. Précédemment, il y a eu Stellantis qui ont distribué leurs dividendes. Ah oui. Et donc, bon, on va dire, on est à l'abri d'un retournement de situation, 7815, par rapport à 8050 côté actuellement, 8054. Mais, après, c'est vrai, se dire qu'on va retourner au plus haut, c'est pas évident. En tout cas, hier, on a flotté après une ouverture, un gap à la hausse. Ça n'a pas confirmé en clôture, ça s'est recassé un petit peu la figure en Europe. Les États-Unis étaient mieux. Et ce matin, à l'instant, aux États-Unis, ils sont fermes, hein, ils progressent bien, quasi 1%. Et nous, bon, ben, on suit, mais on voit bien qu'il n'y a pas une vraie conviction, une vraie dynamique. Vous savez, dans la baisse, on avait les acheteurs qui reculaient, surtout. Et dans la reprise, ben, les vendeurs reculent, les acheteurs avancent, mais oui, il n'y a pas de gros volume d'échanges, il n'y a pas de gros mélange d'intérêts.
Effectivement. Alors, on a quelques records sur le marché. Publicis, qui est en tête du CAC 40, cet après-midi, gagne plus de 2%. Le titre, eh bien, il est sur des plus hauts historiques, ce titre Publicis. Et puis, en Europe, un indice qui a touché tout à l'heure un nouveau plus haut historique, c'est l'indice de la Bourse de Londres. Alors, toujours porté par la hausse des matières premières. Et puis aussi, la perspective de baisse de taux, peut-être, de la Banque d'Angleterre. La Bourse de Londres, tout à l'heure, a touché un nouveau record. Justement, Jean-Louis, si on regarde précisément les actifs et les valeurs, vous avez repéré cet IGL Events qui souffre depuis sa publication, c'était il y a quelques semaines, en mars je crois, la publication de IGL Events. D'un point de vue technique, vous lui trouvez un potentiel intéressant, significatif désormais?
Les résultats, ils ont été publiés le 6 mars au soir. Depuis, en effet, IGL Events a bien reculé, mais pourtant, on va dire que ces chiffres pour l'année, hein, parce que c'était l'année, étaient bons pour l'année 2023. Ils étaient vraiment pas mal. Les perspectives 2024 étaient bonnes. Alors est-ce que c'est le fait accompli, on va dire, mais en tout cas, j'ai les 20 qui a reculé pour moi autour de 19 et revenu sur un niveau d'achat. Si vous voulez, c'est dans l'idée de trouver des valeurs qui sont de qualité et qui offrent un potentiel de rebond intéressant. Vous voyez, c'est pas toujours facile à plus de 8000. Donc j'ai sélectionné GL Events parce que je me suis dit que le risque était modeste et les perspectives intéressantes, avec un potentiel par rapport à 19 d'aller chercher 22-20 et 23-50 avec de bonnes probabilités moyen terme. Donc bien sûr, pour cela, il faut que le marché globalement reste ferme, mais c'est l'idée. Et GL Events est plutôt bien perçue par les analystes. Elle est plutôt conseillée à l'achat. Il y a plutôt un consensus favorable. Donc voilà, c'est une idée d'acheter une valeur qui a reculé pour des raisons que j'ignore, mais qui sont pas méchantes. Et voilà, il faut acheter, je pense, sur ce niveau de 19 euros. D'ailleurs, elle vient de remonter un petit peu là depuis quelques heures.
Merci beaucoup Jean-Louis, on vous retrouvera à la clôture des marchés, ce sera à 17h35 en direct. Effectivement, le CAC 40 est en hausse, l'once d'or en revanche signe que quand même les pressions, les tensions géopolitiques inquiètent un tout petit peu moins les opérateurs que la semaine dernière. L'once d'or recule un peu à 2338$ en ce moment l'once. Quelle heure est-il? Il est l'or puisqu'on parlait d'or, monseigneur. Oui. Il est 16h38 et donc l'once d'or à 2330. Ça vous fait rire, Julien?
Je suis navré.
2330. Vous aimez bien ces rires quand on...
J'adore, j'adore ce public qui adore.
Ils sont tous là derrière nous, oui, voilà, oui. Et ils nous suivent en direct, bien sûr.
Ils sont assez fiers de votre humour.
Public. À 16h38, on va parler de la question du jour, la question sur les réseaux sociaux. Notre fil X BFM Bourse, vous pouvez vous y abonner. Notre fil LinkedIn BFM Bourse aussi, n'hésitez pas à vous y abonner. Parce qu'on est, c'est vrai, en train d'accélérer dans les publications. Et ce soir, deux fleurs fanées du marché vont publier. Tesla et Kering. Tesla après la clôture de Wall Street, Kering après la clôture de la Bourse de Paris. La question qu'on vous pose sur nos réseaux, laquelle de ces deux fleurs fanées du marché, Tesla et Kering, continuera de décevoir durablement? Est-ce que ce sera Tesla ou est-ce que ce sera plutôt Kering? Vous êtes nombreux à voter, on parlera de vos arguments, ceux que vous nous avez laissés en commentaire dans un instant, on rebondira là-dessus, mais votre point de vue, Julien, Tesla ou Kering?
Bon, alors mon point de vue, moi j'ai défendu Tesla il y a deux semaines. À long terme, je pense que Tesla a le plus le potentiel. Maintenant, pour ce qui est du moyen court terme, je pense que c'est Kering qui peut s'en sortir mieux, donc Tesla qui décevra plus durablement. Je m'explique. Kering, il a les nouvelles collections de Gucci qui viennent d'arriver dans le magasin, sur un nombre restreint de magasins. Oui. Donc la perception du rebond, on l'aura au second semestre. Donc au second semestre, on peut potentiellement avoir Kering qui rebondit, alors que là, la valeur est tellement la casse que les risques sont limités. Tesla, ça risque de prendre plus de temps. Plus de temps pour qu'on comprenne les vertus tech de Tesla, pour que ça vienne. On risque d'avoir encore plusieurs trimestres de faible livraison, de division automobile qui déçoit. Donc, mon choix se porte sur Kering. Pour répondre à la question, c'est Tesla.
C'est Tesla qui va le plus durablement continuer de décevoir. Oui. C'est votre idée.
Oui.
Ouais. Et vous êtes d'accord avec nos auditeurs et téléspectateurs qui votent à 60%, à 67% même pour Tesla. Pour vous qui nous suivez majoritairement, c'est Tesla qui est amené à continuer de décevoir peut-être plus structurellement le marché, alors que Kering, donc, pourrait, on verra tout à l'heure, hein, publication après bourse, pourrait peut-être trouver une forme de nouvel élan sur le marché. Ce sera à surveiller, bien sûr. Alors, il faudrait que Kering arrive à moins dépendre de Gucci. C'est l'un des enjeux pour Kering, bien sûr. Ouais.
Non, mais surtout pour le public ce soir, il n'y a pas de suspense. Hein. Ils ont fait un profit warning deuxième semestre, par contre. Là, ça va être crucial.
Et pour Tesla, qui publiera aussi ce soir, mais après la clôture de Wall Street, l'idée, c'est que Tesla est peut-être sur son point bas. En tout cas, c'est l'espoir d'un certain nombre d'analystes et que les publications suivantes seraient, elles, meilleures. Le titre Tesla, on rappelle, depuis le début de l'année, a déjà perdu 43%. 43%. Au point que on parle des 6 magnifiques désormais. On exclut Tesla des 7 magnifiques, ça fait plus que 6. Bon, on verra si Tesla parvient à trouver les ressources pour un rebond, effectivement. Dans un instant, le bullshitomètre. Mais d'abord, Julien, il n'y a pas que Tesla et Kering à suivre aujourd'hui sur les marchés européens. Il y a la bataille du cloud. On va parler de SAP qui cartonne, hein, grâce au cloud. Justement, SAP gagne sur le marché allemand aujourd'hui près de 5%. C'est la première capi allemande et ça porte le DAX. Et chez nous, OVH Cloud, notre champion des data centers français. Eh bien, OVH Cloud perd 16%. Que se passe-t-il ?
Très mauvaise publication pour OVH Cloud. Je passe rapidement sur les chiffres du premier semestre, mais la croissance, elle a atteint 10,8% en année comparable. Pour vous situer, sur l'exercice précédent, on était à 13 et quelques. Ça se tasse. La croissance, elle se tasse, même si les marges augmentent. Le groupe explique que les clients actuels, ces clients, ils optimisent leurs ressources cloud. Donc, derrière ça, on en déduit qu'en fait, ils réduisent la voilure, ils serrent le frein à main. Et ce qui fait surtout mal au-delà de la publication, c'est qu'OVH abaisse sa prévision de croissance pour l'année à venir. Ils sont maintenant à 9-10%. Ils étaient à 11-13% précédemment. Ils disent qu'il y a un contexte économique difficile, surtout en Europe. Et en plus de ça, un analyste nous dit que non seulement ils abaissent la prévision de croissance, mais on pouvait s'attendre à ce qu'ils la relèvent sur la marge. Or, ils ne le font pas. Donc, ils sont prudents. Ils redoublent de prudence. Voilà pourquoi ça grippe le marché.
Et ça crée une forme de choc, effectivement, moins 16%, alors que le groupe restait jusqu'ici sur une bonne séquence.
Ouais, totalement. C'est un coup d'arrêt, hein, il faut le dire. Déjà, en janvier, il y a eu les revenus du premier trimestre. Ils étaient bons. Et après, il y a eu une conférence, un Capital Market Day, donc une journée dédiée aux investisseurs. Et là, franchement, OVH Cloud avait quand même enchanté le marché. Ils avaient dit qu'ils étaient maintenant dans une phase où ils ont moins besoin d'investir dans les data centers, donc il y aura moins d'investissement. Et donc, ils pourront optimiser la trésorerie. Et qu'est-ce qu'ils avaient promis? Ils avaient promis un free cash flow positif, un flux de trésorerie libre positif, sur l'exercice qui s'achève en 2026. Et ça, c'est très important, parce qu'un flux de trésorerie positif, quelque part, c'est une étape financière importante quand on est une jeune société en croissance, mais qui brûle du cash. Donc, c'était bien. Et nous, on a même titré un article, est-ce que la revanche boursière d'OVH n'a pas sonné? Il y a quoi être déçu, et le marché est déçu d'ailleurs.
Effectivement, alors OVH qui pleure, mais SAP dans les logiciels pour le coup, qui sourit grâce au cloud. On était aussi dans le cloud avec OVH, mais sur un autre pan, grâce au data center. Là, dans les logiciels, c'est pas mal. SAP, super publication, 4,5% la hausse de SAP aujourd'hui, c'est la plus forte hausse à Francfort.
Oui, très bien dit. Et là, on voit quand même un peu l'effet taille, hein. Même si les sociétés sont pas tout à fait comparables, SAP, c'est vraiment un géant. OVH, il joue des coudes face à des monstres comme Azure et Amazon Web Services. Hein.
C'est le Raymond Poulidor.
Donc, pour parler quand même de SAP, le cloud chez eux, la croissance, c'est 25%. Et si on parle des prises de commandes, c'est 28% de hausse à plus de 14 milliards d'euros, quand même, hein, pour vous situer. En fait, pour simplifier, les résultats sont solides, la génération de trésorerie est robuste, Bank of America parle d'un début d'année prometteur, et j'y viens, Bank of America prononce le mot magique, elle estime que l'accélération des prises de commandes des clouds, elle est portée par Guillaume ?
Le cloud.
Non, l'intelligence artificielle.
Ah, pardon.
Le cloud.
Ah oui.
L'IA. L'IA. Oui, je rappelle à ce titre qu'en janvier, SAP a annoncé une grosse transformation, redéploiement vers le cloud, qui affectera 8000 postes chez eux et qui redéploieront vers des métiers plus portés par l'IA. Donc, un redéploiement d'IA. Et là, SAP disent quand même au marché ce qu'ils veulent entendre, hein, les deux mots qu'ils veulent entendre.
Effectivement, Emery Guidé était avec nous tout à l'heure pour Pergam. On évoquait justement SAP. Il nous disait j'achète. Pépite SAP, c'est ce qu'il nous disait Emery Guidé. C'était vers 15h40 dans la Bourse Cash. Le replay est disponible sur bfmbourse.com et notre application BFM Business. On parlait aussi tout à l'heure d'un champion, une small cap, amenée peut-être, elle, à bénéficier des Jeux Olympiques, c'est pour ça que je pensais aux champions, des Jeux Olympiques de 2024, c'est le titre Hopscotch. Les experts d'Inextenso estiment qu'Hopscotch est particulièrement bien positionné pour prendre les vents ascendants des JO 2024 Paris. Paris 2024, c'était dans Valeur Ajoutée à 16h15, là aussi le replay est disponible. Un mot d'un titre suspendu de cotation aujourd'hui quand même, c'est Voyageurs du Monde.
voyageurs du monde, figurez-vous, a été suspendu de cotation. Jean-François Rial sera l'invité d'Edwige Chevrillon tout à l'heure dans Good Evening Business.
À suivre.
À ne pas rater, effectivement. En attendant, 16h44, voici venue l'heure du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire, défaire une idée de marché un peu trop facile à ses yeux, voilà, pour essayer de remettre la mairie ou l'église au milieu du village. Aujourd'hui, c'est Léa Dunant-Châtelet qui nous accompagne pour DNCA. Bonjour Léa.
Bonjour.
Et bienvenue. Le numérique, la dématérialisation apporte une pierre déterminante à la préservation de l'environnement. Ah oui, on l'entend ça, que la dématérialisation permet effectivement de protéger l'environnement. Mais vous, vous dites attention, tout ça c'est bullshit. Vous foudroyez, Léa. Cette idée d'une dématérialisation 100% vertueuse. Pourquoi ?
Ah bah tout simplement parce qu'en fait les filières ne sont pas encore créées. Et donc effectivement, il y a un constat assez fort qui a été fait par l'ONU de l'explosion des e-déchets. Donc on parle plus des déchets, on parle des e-déchets avec finalement une quantité de matériel électronique qui explose dans tous les pays. On est à peu près à une centaine de millions de tonnes en 2022 de nouveaux produits mis sur le marché, et en face de ça, des déchets qui représentent quasiment 70 millions de tonnes. Donc ça c'est le premier constat, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de produits, très très peu de recyclage qui est fait en face, puisque sur ces déchets, ces e-déchets, il n'y en a même pas un tiers malheureusement qui sont retraités finalement de manière écologique et correcte.
Ce qu'on appelle les e-déchets, les fruits matériels pour le coup de la dématérialisation, c'est quoi ? C'est les smartphones,
c'est... Exactement, en fait, c'est tous les matériels qu'on utilise, les tablettes, les smartphones, mais ça va aussi dans le petit électroménager. On peut avoir un sèche-cheveux, un micro comme celui-ci, et puis le gros électroménager.
Bon, et le recyclage ne suit pas, ça on va en parler, hein. Pourquoi non. Le recyclage ne suit-il pas un constat, alors c'est vrai, assez alarmant, la dématérialisation finalement est un faux ami, on va le présenter comme ça, plutôt un faux ami de la lutte pour la préservation de l'environnement. C'est un constat équivalent quels que soient les pays, quelles que soient les régions du monde, où on peut nuancer le constat.
Oui, alors déjà ce qui est très important, c'est la consommation d'électronique qu'on va faire par pays. Évidemment, et ça se compte comment ? En kilos par an, par habitant. Évidemment, les pays matures sont ceux qui consomment le plus. On est entre 14 et 17 kilos par an, en général en Europe et aux États-Unis. Si on prend l'Asie, on est plutôt autour de 6-7 kilos. Et si on prend l'Afrique, c'est plutôt 2 kilos. Donc évidemment, c'est pas partout le même problème. En masse, en revanche, c'est assez différent. La quantité d'habitants que vous avez dans les pays émergents étant bien plus élevée, ben en fait, 50% de la consommation est en Asie, une vingtaine de pourcents pour l'Europe et les États-Unis. Donc déjà, ça fait un panorama totalement différent. D'ailleurs, la France est malheureusement plutôt à la traîne, en quatrième position des déchets produits avec 22 kilos par an par habitant.
Et alors là, on est en train d'apporter, de mettre en avant les nuances géographiques pour dresser un panorama, proposer un tableau qui soit le plus fidèle à la réalité possible. Où vont tous ces déchets ? Est-ce que certains se recyclent, par exemple, plus facilement que d'autres ? Histoire malgré tout, de dire que tout n'est pas noir et que, oui, il y a des pistes qui sont d'ores et déjà en train de s'ouvrir.
Alors, malheureusement, pas tant que ça. C'est-à-dire que le taux de recyclage, grosso modo, entre le petit électroménager jusqu'à la tablette numérique, ça va de 20 à 30, 35%. Le pire élève, malheureusement, c'est
20 à 35% sont recyclés.
De recyclage, oui, exactement. Et avec le pire élève qui est le panneau photovoltaïque qui est à moins de 20%, malheureusement. Donc on voit bien cette notion un peu contradictoire dans la transition. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les filières. Parce qu'en fait, le problème n'est pas tant le recyclage, le problème c'est la recyclabilité. Et la recyclabilité, elle est relativement élevée. Les filières ne sont pas construites. Il y a à peu près un quart de tout ça qui part dans les vraies filières écologiques avec des vrais retraitements. Il y a à peu près un quart qui part en rebut. Et puis en fait, tout le reste, eh bien, en fait, c'est des filières non officielles de recyclage. Évidemment, le prix des matières premières et des métaux précieux en particulier a favorisé cette accélération d'un recyclage un peu clandestin.
Et alors, c'est très intéressant, vous nous apportez beaucoup de chiffres, des datas, effectivement, DNCA, vous êtes à la tête, justement, de l'engagement ESG de DNCA. Vous avez des outils spécifiques, effectivement, pour mesurer. Enfin, c'est des chiffres qu'on n'obtient pas comme ça si facilement. D'ailleurs, on vous remercie de les dévoiler comme ça au public de BFM Bourse. Il faut beaucoup, oui, effectivement, d'outils, d'équipes pour arriver à ce niveau d'expertise et de compréhension du sujet, effectivement.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a d'un côté les entreprises dans lesquelles on investit, qui ont des politiques vraiment très assumées de recyclage et de recyclabilité. D'ailleurs, la loi les incite dans ce sens-là, notamment dans les pays matures. Aujourd'hui, il est très difficile de mettre un produit sur le marché dont le taux de recyclage n'est pas quasi à 100%. Et l'automobile a été un des premiers dans ce contexte. Ensuite, vous avez ensuite ce qui se passe à la fin de vie. Et la fin de vie, en fait, on ne la maîtrise pas et l'entreprise ne la maîtrise pas non plus. Et donc là, on a un peu un no man's land. d'une certaine manière.
Julien.
Moi, je suis intéressant ce que vous dites sur la France mauvaise élève, alors qu'on parle du fait qu'on n'est pas très bon dans la numérisation, paradoxalement. Il y a quelque chose à chercher là. Enfin, bref. Mais est-ce que pour autant, il faut tout jeter dans la dématérialisation?
Alors, c'est un bon point, parce qu'en fait, il y a une étude que La Poste avait faite, parce qu'il y avait cet engouement vers l'email pour contrer le papier. Le papier, on coupe du bois, c'est assez évident l'impact écologique. Et La Poste avait évidemment, c'est quand même leur cœur de métier, je dirais, essayer de comprendre l'impact. Il y a 17 points qui ont été analysés sur l'environnement, et finalement l'email, si on regarde son cycle de vie, c'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement l'email, c'est depuis le départ de cet email, la manière dont il est produit, l'énergie qu'il nécessite, le cloud dont vous parliez juste avant, qui est nécessaire aussi pour stocker, et ainsi de suite. Et bien, à la fin, on se retrouve avec un email qui, sur 17 points environnementaux, est défavorable pour 16 d'entre eux. Le seul qui est favorable à l'email, c'est le sol, justement, l'usage des sols, le fait qu'on ne va pas utiliser des forêts. Donc ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir comprendre un peu cet impact, il va falloir le regarder dans sa globalité et pas seulement faire des tout droits assez simples comme la numérisation.
Léa, quand on est investisseur, BFM Bourse, émission d'investissement pour les investisseurs, est-ce qu'on peut se dire qu'à toute chose, malheur est bon? Alors on aimerait que les choses s'améliorent, elles vont finir sans doute par s'améliorer. Vous le disiez, les taux de recyclage sont alarmants, le recyclage ne suit pas. Est-ce qu'on peut imaginer néanmoins que justement ce sont autant d'opportunités à venir?
Absolument, et c'est d'ailleurs le point de l'étude de l'ONU, c'est de dire, bon, à ce stade-là, si on est à statu quo sur les filières mondiales de recyclage, on ne recyclera pas plus que 20% de tous ces e-déchets en 2030. Maintenant, il y a des objectifs qui sont proposés, des filières qui sont en construction, et en fait, il y a des gains financiers potentiellement, puisqu'il y a de la matière dans tout ça. On ne recycle pas juste pour la beauté du geste, on sait en plus que la plupart de ces ressources sont finies, et donc là où aujourd'hui on est sur un coût de plusieurs milliards de chaque année de recyclage avec finalement des pertes en face, eh bien l'activité peut être orientée vers quelque chose qui sera ensuite bénéfique. C'est estimé, je regarde le chiffre parce que je ne l'ai plus en tête parfaitement, mais c'est estimé de l'ordre d'une cinquantaine de milliards par an si effectivement on recycle plus de 60% de ces e-déchets en 2030.
Léa Dunant-Châtelet pour DNCA, ce bullshitomètre à retrouver en replay aussi sur l'application BFM Business. Vous restez avec nous Léa?
Bien sûr.
Il nous reste 4-5 minutes
plaisir.
En famille à passer ensemble et plaisir partagé. Alors, juste quand même ce chiffre, on parlait là du coût de la dématérialisation, du coût environnemental de la dématérialisation et des smartphones, par exemple. Apple perd beaucoup de parts de marché en ce moment en Chine. C'est un chiffre qui a été révélé tout à l'heure. Les ventes de smartphones en Chine ont diminué de quasiment 20% au premier trimestre pour Apple, alors que celles de son concurrent Huawei ont bondi de 70%. Moins 20 Apple, plus 70% pour les ventes en revanche de Huawei, si bien que la part de marché d'Apple en Chine est passée en un an de quasiment 20% à seulement 15% désormais. En à peine un an, la Chine étant le premier marché mondial des smartphones. Les choses bougent vite. Apple ne réagit pas, le titre est quasi stable aujourd'hui. On va suivre la publication dans quelques jours d'Apple comme le lait sur le feu. Et justement, c'est aussi l'objet, les 7 magnifiques, la tech américaine, de notre Factor X. Chaque jour, on détecte une publication, un post à forte valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce post de Charles Janus concernant donc les 7 magnifiques qui commencent à publier ce soir avec Tesla. On aura aussi cette semaine Alphabet, Microsoft ou encore Meta. Eh bien, figurez-vous que les bénéfices des 7 magnifiques devraient, sur le premier trimestre, ressortir en hausse de 38%. Plus 38%, la hausse des bénéfices des 7 magnifiques attendue selon Bloomberg. Mais si on exclut les 7 magnifiques, les bénéfices du S&P, eux, devraient baisser de quasiment 4%, Julien.
Ouais, mais attendez, c'est encore pire, en fait. Parce que là, dans les 7 magnifiques, il y a Tesla. Et Tesla, les bénéfices, ils vont baisser cette année. On va pas se voler la face. Ouais. En fait, si vous enlevez Nvidia, parce que Nvidia, le bénéfice, vous savez combien est-ce qu'il est attendu en hausse? 400%. Vous excluez Nvidia, ils sont à plus 23%. Et après, on peut aussi s'amuser à exclure Amazon, 150%, Meta, 100%. Et vous vous rendez compte que Apple est en légère trait. Tesla est en baisse. Et ça, il y en a à peu près bien sur Microsoft et Alphabet, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, la concentration, c'est quand même impressionnant. Donc voilà. Après, j'ai envie de dire que c'est un peu un double-edged sword. Une lame à deux versants.
Oui, double lame.
Merci, excusez-moi.
Non, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Double lame.
Ça. Parce que l'effet double lame. Parce que ça veut dire que les attentes sont basses pour les autres. Si vous les dépassez, ça vous laisse du champ pour les dépasser. Ah alors qu'un inverse, Nvidia, enfin, vraiment, on le disait déjà hier, mais chaque publication Nvidia, on va être comme ça, y a-t-il un pilote dans l'avion, pour ceux qui ont la référence, parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est pas tout jeune.
C'est vrai. C'est
Alors pour le coup, c'est de ma génération. J'avais 6-7 ans, je crois, quand le film est sorti. Mais Léa,
n'étiez pas née. Non, si, si, au contraire. Moi,
je suis... Ah oui, vous l'avez même pas cru. Je pensais que vous étiez plus jeune. Bon, voilà.
Et on est tous un peu surpris, mais c'est pas
grave. Les 7 magnifiques, donc, qui commencent à publier ce soir avec Tesla. La moins magnifique, sans doute, des 7 magnifiques. On gardera tout ça, bien sûr. Et on verra comment le marché réagit. Vous dites quoi sur l'intelligence artificielle, Léa, en tant que spécialiste de l'investissement ESG? L'IA, c'est ESG? Où l'IA, bah, c'est très consommateur d'énergie et donc c'est pas très ESG. Comment est-ce que vous abordez?
Oui, alors là, ça va être le bon équilibre à trouver. Non, définitivement, l'intelligence artificielle appliquée à beaucoup de process industriels, mais aussi dans la santé, fait des gains de temps et de process énorme, notamment dans l'industrie et donc d'énergie. Donc quelque part, il y a beaucoup pour produire l'intelligence artificielle, les systèmes de calcul, etc. sont très énergivores, mais en réalité, mais on n'y est pas encore, quand on voit les applicatifs, il y a fort à parier quand même que la balance soit positive. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a tous les sujets d'erreurs humaines qui vont énormément faciliter les choses. Donc, par contre, vous aurez un sujet ressources humaines qu'on a déjà entrevues dans certains secteurs, comme les médias par exemple. Mais c'est vrai que si on remplace les hommes par des machines, jusqu'où ça peut aller? Néanmoins, oui, c'est un facteur de
croissance. Alors, vous ne le saviez pas, mais Julien est une création de BFM Business, une création d'intelligence.
C'est un hologramme, il ne faut pas le dire.
C'est assez vrai ce que vous dites. Moi, j'ai été formé au club ici, avant de partir quelques années.
Voilà. Vous êtes une intelligence artificielle, Julien.
Une intelligence artificielle, vous avez prêté à notre média pendant quelques années.
Effectivement. Et... on poursuit la famille, effectivement, dans la bonne humeur. x2, notre chiffre du jour, x2. Goldman Sachs compte doubler ses effectifs de M&A. Alors, les M&A dans le secteur financier institutionnel à Paris. Signe toujours de cette attractivité. L'IA ferait-elle ce lapsus? Signe, ça c'est le charme de l'humain.
Probablement pas.
Je vais essayer de me rassurer comme ça. Voilà. Donc, on recommence. Goldman Sachs compte doubler ses effectifs de M&A dans le secteur financier à Paris. Signe donc de l'attractivité croissante de la place parisienne, un signe de plus en l'occurrence.
Un signe de plus, je crois qu'il passerait de 7 à 15, je suis plus tout à fait sûr des chiffres, mais quand bien même les chiffres sont pas énormes, c'est quand même important parce que c'est des métiers à forte valeur ajoutée et ça démontre en fait l'attractivité de la place, comme vous l'avez montré. Alors moi j'ai cherché d'autres chiffres et je me suis rendu compte que François Hudrois de Gallo, il avait fait un discours il y a 2 semaines où il les évoquait tous, donc j'ai repris son discours, je ne suis pas embêté. François Hudrois de Gallo, gouverneur de la Banque de France, on rappelle. Morgan Stanley compte faire passer à Paris, dans ses activités de marché, à 500 postes. Le total, contre 150 en 2021. 500 contre 150. Barclays, ça c'est Reuters qui disait, envisage de délocaliser de Dublin à Paris ses activités. Et JP Morgan, sont actuellement à 900 personnes. Ils ont 900 personnes à Paris. Ils ont transféré 13 milliards d'euros d'actifs supplémentaires. Voilà. Et par ailleurs, pour parler encore plus gros, alors ça c'était une étude de Paris Europlace de 2021, on estimait que le Brexit avait créé environ 4000 emplois directs et une dizaine de milliers pardon, si vous comptez les emplois indirects. Je ne sais pas si j'étais très clair.
Le Brexit est pour beaucoup, effectivement, c'est sûr.
Et la place parisienne qui attire de plus en plus, au point donc que Goldman Sachs compte doubler ses effectifs dans les fusions acquisitions consacrées, spécialisées dans le secteur financier institutionnel, doubler donc ses effectifs parisien. Signe aussi qu'on attend une multiplication des fusions-acquisitions. C'est aussi ça qu'on peut imaginer dans le choix stratégique de Goldman Sachs, parce que les hausses de taux ont apporté pas mal de cash au secteur bancaire, au secteur des assurances aussi. On attend, c'est vrai, peut-être plus d'opérations de M&A dans ce secteur en Europe. On a vu d'ailleurs la Société Générale se délester de plusieurs actifs ces dernières semaines, effectivement. Et à chaque fois, les opérations avaient été saluées par le marché, ce qui pourrait encourager d'autres opérations encore. Donc,
mais c'est logique, c'est des choses qu'on attendait de la part de la Société Générale. Mieux vaut tard que jamais.
C'est la famille. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Julien Marion, les équipes web de BFM Bourse. Salut Julien.
Merci Guillaume.
Et jamais 203, demain peut-être pour de nouvelles aventures. Merci Léa. Merci beaucoup.
À bientôt.
Léa Dunant-Châtelet, DNCA et vos équipes régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup Léa de nous accompagner si souvent. Dans un instant, le club, on va mesurer le potentiel global des marchés. Anticiper à nouveau la publication ce soir de Kering après Bourse. Ce sera dans une grosse demi-heure à vivre sur BFM Business. Et puis on vous rappelle aussi que le titre Voyageurs du Monde aujourd'hui est suspendu de cotation. Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde, sera l'invité de Good Evening Business et d'Edith Chevrillon juste après 18h. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.